Parle-moi d'elle. Reportage. Anne-Cécile Bras.
Moi, je ne sais même pas si je suis une femme. Je me décline au féminin. Je sais de qui je suis solidaire. Il n'y a pas de label contrôlé. J'ai peut-être pas toujours été une femme, mais je n'ai jamais été un homme. Que les choses soient claires.
Bonjour, on ne naît pas femme, on le devient, clamait Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Les transsexuels, qui seraient plus de 60 000 en France, pourraient faire de cette phrase leur credo. C'est vrai que c'est dérangeant d'admettre qu'un être humain né de sexe masculin puisse se sentir femme au point de se faire opérer. Pourtant, c'est une réalité. Dans de nombreux pays, ce bouleversement est légal. Les hommes sont de plus en plus nombreux à faire le pas, même si c'est un véritable parcours du combattant. 6 à 12 mois de suivi psychologique, des traitements hormonaux lourds pour éliminer ses propres hormones et recevoir celles du sexe opposé. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, 75% en moyenne, la dernière étape, c'est l'opération, avec une augmentation mammaire et la reconstruction des parties génitales. Au-delà de l'aspect troublant, nous avons voulu comprendre comment ces hommes ressentent leur féminité, quelles sont les positions des législateurs et du corps médical, leurs interrogations et leurs évolutions, car en toile de fond, c'est la définition du féminin et du masculin dans nos sociétés qui est en jeu. Le professeur Stanislas Monstret est chirurgien à l'hôpital universitaire de Gand, en Belgique. Il opère en moyenne 3 hommes par semaine et il y a plus d'un an de liste d'attente. Il répond à Amandine Casadamon.
Sur le plan mondial, et c'est un peu un phénomène qui n'est pas toujours expliqué, c'est qu'il y a plus d'hommes qui veulent devenir femmes que femmes qui veulent devenir hommes. Bien que dans la société, un peu partout même, un peu moins ici que dans d'autres pays, que la position de l'homme est, je dirais, pas préférée, mais quand même un peu plus facile. La vie de femme, et surtout de femme transsexuelle, est plus difficile que comme homme dans la société. Par exemple, on a récemment vu une femme transsexuelle turque qui est là dans cette société, qui habitait ici, mais dans son monde turc ici, personne ne peut comprendre qu'on est homme et qu'on veut devenir femme. Donc, mais quand même, partout au monde, il y a plus de sexuels que
des couples. Et donc, quand un couple a un problème, il va voir cette personne pour que cette personne démontre le problème.
Mais comment faire avec l'état civil? La Cour européenne des droits de l'homme considère que les transsexuels opérés ont le droit de changer de nom pour que leur aspect extérieur soit en accord avec leur identité. Tous les pays de l'Union n'ont pas encore transcrit cette recommandation dans leur droit national. Mais pour Daniel Borillo, spécialiste du droit des sexualités, enseignant à Paris 10 et chercheur affilié au CNRS, le sexe ne devrait pas être une catégorie.
Moi, je trouve que le transsexuel soulève une question très intéressante que moi, je trouve, on devrait se poser de manière plus générale. C'est la raison pour laquelle l'État inscrit les individus en tant qu'homme ou femme. Alors, si vous voulez, traditionnellement, on voit comment on a supprimé un certain nombre d'inscriptions et d'inscriptions aussi en droit. Par exemple, on n'inscrit plus la race d'une personne. Donc on ne l'inscrit pas à une origine ethnique, ce qui est le cas dans d'autres pays, mais pas en France. Par exemple, on n'inscrit pas la religion de la personne non plus. Bon, voilà. Et donc je pense que peut-être on ne devrait pas non plus inscrire le sexe, car je ne sais pas pour quelle raison le sexe est une catégorie encore pertinente dans la définition du citoyen ou du sujet de droit. Je pense que dans la situation actuelle, c'est-à-dire une situation de totale égalité juridique, en tout cas, après sociale, il y a beaucoup à faire, mais juridique entre hommes et femmes, pourquoi continuer à diviser les sujets de droit, les citoyens, les personnes entre un sexe et un autre sexe? Moi, je serais pour plutôt qu'il n'existe plus dans les registres de l'état civil cette inscription. Déjà, on réglerait la question des transsexuels, mais ceci, on réglerait peut-être cette espèce de rigidité des genres, c'est-à-dire quand on est femme, on est d'une manière, quand on est homme, on est d'une autre manière. On construit une catégorie sociale, psychologique, anthropologique, qui peut faire souffrir les gens. Parce que je pense que dans les stéréotypes du masculin et du féminin, il y a beaucoup des gens, sans arriver vraiment à la situation extrême qui est la situation du transsexuel, mais je pense que nous tous, beaucoup des gens, ne se sentent pas nécessairement bien dans toutes les catégories dans lesquelles on nous inscrit, du masculin, pour ceux qui avons un pénis, et du féminin, pour d'autres qui ont un vagin. Je trouve que c'est peut-être une dualité, un dualisme qui pourrait être dépassé.
J'ai une amie qui voulait se faire opérer et elle m'a dit, dans les questionnaires qu'on lui demandait, il y avait quelle couleur vous aimez. Elle a dit, j'ai mis rose. Elle me dit, j'ai horreur du rose, mais j'ai mis rose. Parce que je savais que dans leur tête, une femme, c'était avec la couleur rose. La chose qui est intéressante, c'est quelle image de la femme et quelle image de l'homme ils ont. Et c'est certain qu'il y a des œuvres d'art de femmes qui ont une force, une violence, qui ne sont pas forcément dans le rose. En même temps, il y a l'image que quelqu'un va revendiquer et ce qu'il vit dans la réalité. Et pas mal de ces trans qui sont dans des identifications avec des personnages hollywoodiens, mais bon, qui sont aussi les personnages que la télévision vous déverse dans leur vie quotidienne, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout des personnes soumises. C'est des personnes qui brisent des tabous, qui se battent contre leur famille, qui se battent contre la terre entière. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est pas est-ce qu'elle, le nombre de couches de bleu qu'elle se met sur les yeux. C'est voir dans la réalité pratique, est-ce que c'est une personne qui est dans les stéréotypes ou qui se bat contre les stéréotypes.
Nous avons des patientes qu'on considère comme des trans, on appelle ça des transgenderistes, qui ne veulent pas aller jusqu'au bout et qui veulent une augmentation mammaire, mais qui ne veulent pas perdre leur pénis. Et là, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir que après, ils viennent quand même nous voir parce qu'ils se sentent quand même femmes et qu'ils veulent se débarrasser de leur pénis et de leur scrotum. Donc, des patientes qui ont besoin d'un peu plus de temps, il n'y a aucun problème. Mais il y a des patientes qui vraiment veulent rester à mi-chemin. Et là, pour nous, c'est quelque chose qui est très difficile aux médecins. Parce qu'il y a des patientes qui disent que les médecins ne peuvent que penser ou bien masculin ou bien féminin et qu'ils ne laissent pas d'espace pour tout ce qui se trouve entre les deux. Et évidemment, tout le monde sait que c'est jamais noir ou blanc entièrement. Mais nous sommes des médecins et quand les patientes veulent que nous, on les traite, eh bien, il nous faut des critères de diagnostic et des critères de traitement. Et là, quand, pour des patients qui restent entre les deux, sur le point médical, sur le point légal, il n'y a pas de critères. Donc, on est très hésitant à traiter ces patients.
Pourquoi sur le point médical ?
Parce que quand on les traite avec le traitement hormonal et le traitement chirurgical, il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'à long terme, ils sont mieux avec ce traitement-là qu'avec le traitement purement psychiatrique. Et dans le temps, on disait bah, il vaut mieux attaquer la tête et essayer de changer la tête. Mais on a remarqué que ça ne marche pas, qu'il faut changer le corps. Et là, il y a plusieurs études, il y a beaucoup d'articles qui ont démontré que ça, c'est la meilleure façon de traiter ces patientes, qu'il y a moins que le taux de suicide, le pourcentage de suicide diminue, que c'est quelque chose. Mais pour ces patientes qui veulent seulement aller jusqu'à mi-chemin, là, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est ça la meilleure façon de les traiter. Donc, s'il n'y a pas de preuve que c'est la meilleure façon, alors pour nous, pour point de vue médical, on est alors dans tout ce qui est expérimental. Et là, en effet, on ne veut pas se débarrasser de ces patientes. Et maintenant, on a une étude avec Amsterdam où on essaye de mieux investiguer ce que les patientes veulent et d'investiguer comment ils peuvent être aidés de la meilleure façon. Mais de dire seulement, eh ben, vous voulez ça, eh ben, on vous le donne et on ne se pose pas de questions. Alors là, non, on ne peut pas le faire.
En fait, les transsexuels bouleversent les fondements de nos sociétés basés sur un monde bipolaire partagé entre le féminin d'un côté et le masculin de l'autre. Hélène Azéra, elle, revendique la liberté de choix d'être entre les deux.
Moi, je me revendique plutôt transgenre que transsexuel. C'est-à-dire que je n'ai pas le besoin de passer par une opération chirurgicale et c'est ma liberté. Moi, la chose qui me dérange le plus quand on parle de trans, c'est que c'est toujours la faute à la maman, la faute au papa, je ne sais pas quoi, il y a une mauvaise imprégnation hormonale du fœtus dans le ventre, etc. Mais jamais on parle de liberté. Jamais on parle de la liberté individuelle. Et je trouve que quand on commence à parler de liberté individuelle, là on s'adresse tout d'un coup à tout le monde. Et tout le monde doit être concerné. Tout le discours médical aujourd'hui est un discours contre la liberté des gens, c'est-à-dire nous savons mieux que ces gens-là ce que ces gens veulent et ces gens désirent, et c'est une catastrophe.
Vous me disiez hors micro, quand il y a des colloques, des réunions sur les trans étaient exclus.
Ben oui, il n'y a pas longtemps, donc bon, je fais partie de la commission trans d'Act Up, je fais partie de l'Existrance qui est un réseau associatif qui est en train de se créer. Et donc, à l'initiative du GATT et de Act Up, on a interrompu un colloque qui était à Sainte-Anne. Mais il y avait le passage à l'acte, la névrose, la psychose, enfin, on avait droit à tout. Les psys de ce colloque refusaient que des trans assistent au colloque et refusaient qu'un homme trans psychologue, mais qui a tous les diplômes, assiste. C'est aberrant. C'est une phobie. Ils sont même pas capables de parler à une trans ou à un trans devant un micro. C'est ahurissant.
Tout ceci crée une forme de discrimination, de transphobie. Est-ce que le droit prévoit quelque chose contre ces types de discrimination?
Eh bien non, dans la catégorisation des domaines et des catégories protégées dans la lutte contre les discriminations, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau pénal ou au niveau civil, il y a plusieurs catégories comme la race, l'origine ethnique, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Mais pas l'identité sexuelle. Donc je pense qu'il aurait fallu effectivement peut-être introduire la question de l'identité sexuelle. Alors l'argument juridique en général qu'on donne, c'est puisque les transsexuels sont protégés sous la catégorie sexe, c'est-à-dire du moment qu'ils sont opérés, ils appartiennent à la catégorie nouvelle, homme ou femme, et il y a une protection en droit international qui est le sexe. Donc l'argument c'est ça, c'est de dire non, il n'y a pas besoin d'une nouvelle catégorisation qui serait pour moi l'identité sexuelle. Mais le sexe suffit. Alors moi, je pense qu'à côté du sexe et de l'orientation sexuelle, il faudrait introduire l'identité sexuelle, car on voit bien que la problématique transsexuelle n'est pas simplement une problématique liée au sexe, c'est aussi une problématique liée au genre, et c'est une problématique suffisamment spécifique pour mériter une catégorie à part en ce qui concerne la protection.
Moi, je suis obligé de dire, moi, dans les amis que j'avais entre 20 et 25 ans et dans ce monde de la prostitution, il y en a entre 70 et 80% qui sont mortes aujourd'hui.
Qui sont mortes d'eux ?
Tout, la défonce, tuée par des clients, écrasée par une voiture au bois de Boulogne, le suicide. C'est énorme. Et je me dis, mais la plupart, si on leur avait donné leur chance... En plus, bon, moi, je trouvais que c'était des filles qui avaient plutôt quelque chose à apporter au monde. Et pour moi, c'est un gâchis... absolument affreux. Donc, on avait été reçu par Monsieur le ministre Azouz Begag, et à un moment, il nous a dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'égalité des chances ?» J'ai dit « Ben nous, si déjà on avait les mêmes espérances de vie que les autres, on serait contents. » Depuis le RMI, les trans réussissent à échapper à la prostitution. Moi, je suis passée par la prostitution, j'ai fait 5 ans de prostitution, et pratiquement toutes les amies de ma génération très très difficile de passer à travers. J'en connais quelques-unes qui ont réussi, mais vraiment très peu.
Cette vérité humaine que représente le transsexuel est troublante et dérangeante, mais on ne peut pas l'ignorer. Elle existe depuis toujours et dans toutes les sociétés. Alors n'y a-t-il pas un entre-deux entre le masculin et le féminin ? Est-ce que ceux qui vivent dans leur corps ce dilemme ne devraient pas être plus écoutés et respectés, ne plus les rejeter, tout simplement parce qu'ils cassent la frontière des sexes, source de tant de violence et d'inégalité ? C'était Parlez-moi d'elle, une émission de Anne-Cécile Bras et Jean-Frédéric Etienne. Le reportage était signé Amandine Casadamon.